Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire 12 années avec Sri Aurobindo de Nirod Baran, traduit en français, et le chapitre Les assistants. Je ne sais pas si j'ai le droit de parler de mes autres collègues, mais au sujet de Champakalji en particulier, je dois écrire quelques mots jaillis tout droit du cœur, car son esprit de service a laissé une impression indélébile sur mon âme et m'a enseigné la nature du vrai service. En guise de préambule, voici ce que Mère a dit de lui en le présentant à son fils André en 1949. Elle s'exprima d'une manière très chaleureuse. Il est venu ici lorsqu'il était très jeune. Je lui ai appris toutes sortes de travaux. Il s'est mis lui-même au service personnel de Sri Aurobindo. Il s'occupe pratiquement de tout ce qui se concerne Sri Aurobindo. Il est extrêmement soigneux, méticuleux et veille aux moindres détails. Il n'y a pas d'heure fixe pour ses repas et il les prend quand il peut. De même pour son sommeil. C'est pourquoi il ne peut pas se joindre aux activités sportives. Il travaille avec joie et dévotion. Il collectionne toutes nos petites affaires et les conserve avec un grand soin. Nos habits, nos ongles, nos cheveux, etc. Un bhakta, celui dont le yoga est fondé sur l'amour et la dévotion. Il vient parmi nous en raison de ses antécédents, comme je l'ai dit. Non pas un bhakta traditionnel, mais un bhakta qui a choisi le service comme un moyen d'expression de soi et de réalisation fondamentale. Même le mot « réalisation » ne semble pas exact, car seul le don de soi compte pour lui. Le service et sa nourriture même. Si l'un d'entre nous faisait sa part de travail, il était très contrarié et s'écriait « Vous me privez de ma nourriture, je peux rester sans nourriture, mais pas sans travail. » Cela résume Champakalji. Et c'est extrêmement l'esprit qu'il conserva sans défaillance tout au long des 12 années où nous avons vécu et travaillé ensemble. La mère avait une totale et absolue confiance en lui, en le mettant au service de Sri Aurobindo avec nous. Elle pouvait être tranquille. Sri Aurobindo aussi lui faisait confiance pour toute information qui lui était nécessaire au sujet de la mère et pour d'autres renseignements. Un jour, la mère arriva dans la chambre de Sri Aurobindo et, comme d'habitude, s'assit sur le canapé en face du lit. Nous observions la scène. Sri Aurobindo fit un signe à Champakal en tournant son regard vers la mer. Champakal comprit. Il se leva immédiatement et plaça quelques coussins derrière le dos de mer. C'était leur façon de faire. Je suis fermement convaincue qu'à travers les anges, il a été en relation étroite avec la mère et Sri Aurobindo. Autrement, comment aurait-il pu être choisi comme l'assistant personnel de Sri Aurobindo aussitôt qu'il arriva, alors qu'il n'était qu'un jeune garçon? Comment, lorsqu'il vint voir Sri Aurobindo pour la première fois dans les années 1920, encore adolescent, il se prosterna à ses pieds pendant une heure, complètement noyé de larmes de bonheur. Et lorsqu'il partit, Sri Aurobindo demanda à l'un de ses camarades plus âgés de le ramener avec lui. C'est lui qui est le premier accepta Sri Aurobindo comme le Père divin et l'appela Père. Accepta la mère comme la mère divine et commença à l'appeler mère. Quand il s'offrit de laver les vêtements de Sri Aurobindo, du père, Sri Aurobindo l'avertit qu'on se moquerait de lui, mais cela ne le découragea pas. Il se passait de nourriture et de sommeil, ne quittait pas sa place de peur que le maître n'ait besoin de quelque chose ou même n'ait à attendre une minute de plus. Servir Sri Aurobindo était d'une certaine manière très facile, car il n'exigeait à jamais rien de nous, se satisfaisait du minimum et n'exprimait jamais de mécontentement si nous n'étions pas à la hauteur d'une manière ou d'une autre. Cette facilité même nous tenait en éveil, car quelqu'un qui nous ne demandait pas plus que le strict minimum avait besoin d'une surveillance attentive et vigilante pour qu'on puisse lui donner un peu plus de confort et de bien-être. Champakal gardait un œil vigilant, toujours. Il connaissait mieux la nature et le tempérament de Sri Aurobindo en raison de l'amour qu'il lui portait de sa longue expérience et sentait ses besoins avant même qu'il ne se manifeste. S'il voyait que Sri Aurobindo avait besoin de quelques coussins sur le côté du lit, il les faisait faire. Si son tabouret était un peu haut ou un peu bas, il l'ajustait à la hauteur requise. Un réveil devait être mis à côté de lui, car il savait que Sri Aurobindo avait l'habitude de regarder souvent l'heure. Sa sensibilité saisissait ces petites choses qui passaient inaperçues pour notre imagination peut-être un peu pauvre, et il essayait de donner à la vie du brahman impersonnel bonheur et confort. Quand Sri Aurobindo s'asseyait au bord du lit et devait attendre longtemps l'arrivée de mère, il semblait s'assoupir, son corps penchait en arrière puis se redressait. Cependant, il ne demandait pas d'aide, mais pas par vanité. Il s'accommodait de tout manque de confort. Cependant, si nous lui offrions de l'aide, il ne la refusait pas. Nous étions de simples spectateurs, sans savoir comment faire face à la situation. Champakal, lui, était toujours à la hauteur des circonstances. Il arrangeait une pile de coussins pour lui servir de dossier et pour les empêcher de s'écrouler, les soutenait lui-même par derrière. Pour pouvoir faire les économies imposées par la guerre, Mère nous conseilla de ne pas changer trop souvent les draps de Sri Aurobindo. Mais s'il y avait une toute petite tache sur un drap blanc, par ailleurs tout à fait propre, Champaka l'hésitait à l'utiliser et disait « Comment peut-on utiliser quelque chose de malpropre pour le Seigneur ?» Lorsqu'il faisait le lit, c'était un spectacle admirable. Je me demande même si une maîtresse de maison entraînée l'aurait fait aussi parfaitement. Le drap n'avait pas le moindre pli et il était lisse et brillant comme du marbre. En chaque chose, son but était d'être sans défaut. Aussi, ce qui devait travailler avec lui se trouvait-il dans une situation très difficile. Il prétendait avoir acquis cette perfection sous l'apprentissage de Mère. Quelquefois, il me réprimandait quand je n'étais pas assez ordonnée ou pas assez propre. « Vous êtes docteur et malgré cela, vous ne vous lavez pas les mains », disait-il. Quant à lui, le fait qu'en plus de son apprentissage, il appartenait à une famille brahmine très orthodoxe. Il avait observé méticuleusement toutes les pratiques ordonnées par les shastras, les écritures sacrées, et que son père, prêtre orthodoxe, avait imposé à ses enfants. Nous étions des gens tout à fait modernes avec nos idées personnelles. Aussi, il y avait-il parfois des heurts et des conflits. D'ailleurs, il était sur certains points sensible comme un enfant. Nous devions faire très attention de ne pas l'indisposer, de ménager ses sentiments autant que nous le pouvions. Il ne comprenait pas la plaisanterie ni les allusions. Il me dit que Sri Aurobindo en avait une fois parlé à Mère. C'était juste après qu'il se fût installé ici. Son père écrivit une lettre à Sri Aurobindo disant que le mariage de Champakal avait été arrangé. Il lui suffisait de venir, d'assister à la cérémonie de mariage, puis de repartir. Sri Aurobindo répondit gravement. « Je suppose que nous devons renvoyer Champakal. » Il fut très affecté d'entendre cela. Alors Sri Aurobindo ajouta, « Il ne comprend pas la plaisanterie. Il savait bien toutefois comment s'y prendre pour que les choses soient faites par le divin. Bénédiction écrite sur un livre, par exemple, autographe sur une photo. Si Champaka le lui demandait, Sri Aurobindo ne refusait pas. La mère aussi devait accéder au désir de son bhakta, son plus fidèle enfant. Un jour, il se mit en tête de se procurer les empreintes des pieds de Sri Aurobindo. Comment allait-il faire sans le déranger ou l'avertir? Il eut une inspiration. Il mit dans un coin une feuille de papier blanc et un crayon. Aussitôt que Sri Aurobindo s'assit sur la chaise, il poussa la feuille de papier sous les pieds et demanda « Est-ce que je peux dessiner l'empreinte de vos pieds ?»« Non seulement. » Sri Aurobindo accepta, mais il écrivit sur le dessin amour et bénédiction. N'oublions pas à ce propos que Champakal était un artiste. Chaque fois qu'il voyait Sri Aurobindo dans ce qui lui semblait être des poses sculpturales, son cœur s'extasiait et nous appelait pour partager sa joie. Il s'exclamait « Ah, si seulement on pouvait photographier cette pose merveilleuse !» La mère a dit qu'il avait un talent naturel qui avait déjà atteint un degré inhabituel de développement. Un jour, le jour de son anniversaire, il peignit deux lotus blancs et rouges et offrit les tableaux à la mère. Elle fut très contente et dit qu'elle les porterait à Sri Aurobindo et lui demanderait d'écrire quelque chose dessus. Il écrivit sous la peinture du lotus blanc « Aditi, la mère divine ». Et la mère écrivit sous l'autre, le rouge, l'avatar. En même temps, elle interdit à Champakal de les montrer car les gens n'en comprendraient pas la signification. Champakal est le conservateur de toutes les reliques, telles que cheveux, ongles et dents. Il a même emmagasiné tous les cendres des serpentins anti-moustiques. Voilà un incident humoristique au sujet de ces cendres. Pendant les entretiens du soir, la mère entra avec un télégramme dans lequel quelqu'un avait demandé à Sri Aurobindo d'envoyer des haches, des cendres, pour le mariage de leur fille. Nous étions perplexes, car nous ne pouvions pas comprendre que cela voulait dire. Pour Annie, eut un éclair et dit « C'est peut-être le mot indien hashish pour bénédiction. « Oh, je vois !» s'exclama Sri Aurobindo. Je me demandais comment on s'attendait à ce que je porte des cendres avec moi, peut-être sur ma tête. Naturellement, je peux leur donner des cendres qui viennent des tourbillons de Champakal. Si je n'avais pas cessé de fumer, j'aurais pu leur donner des cendres de cigares. Un jour, je peux aussi vous raconter comment je fus l'objet d'une faveur. Champakal et moi-même prêtions assistance à Sri Aurobindo lorsqu'il se lavait le visage et la bouche. Un jour, pendant cette opération, il fit le geste de me donner quelque chose alors que je tenais le bol pour le gargarisme. Je tendis immédiatement ma main gauche et il déposa doucement quelque chose, sans regard ni commentaire. Je ressentis immédiatement un frisson et reculai vers la lumière pour voir si ce pouvait être une dent. Oui, c'était une molaire. Je montrai à Champakal, qui était occupé à quelque travail, il en roula des yeux d'étonnement. Et alors, il me fit raconter l'histoire de la réception de ce cadeau extraordinaire. Bien sûr, je la lui remis pour qu'il la mette en lieu sûr. À vrai dire, ces choses étaient de son domaine, mais le divin, parfois, passe outre à nos règles et à nos droits divins. De tels exemples, nous en avons remarqué souvent. Mais puisqu'il s'agit d'une question de perception intérieure, aucune preuve rationnelle ne peut venir étayer leur véracité. Seule la personne concernée sait que son aspiration intérieure a reçu une réponse. Je vais vous illustrer ce fait. J'ai dit que lorsque Sri Aurobindo se remit à marcher, au lieu d'utiliser des béquilles, il s'appuya sur Champakal et Purani. Après quelques mois, il ne resta que Champakal, car il était à gauche et à droite de Sri Aurobindo. Il utilisa sa canne. Champakal ne manquait jamais sa chance, pas plus qu'il ne manquait à son devoir. Champakal, il ne serait pas Champakal s'il les manquait. Alors grandit en moi le désir de soutenir comme lui le bras de Sri Aurobindo sur mon épaule au moins une fois. Mais étant de nature un peu timide et craignant que mon corps frêle ne soit trop faible pour supporter sa substance et son poids divin, j'étouffais mon désir avant qu'il ne m'étouffe. Pourtant, il se trouva qu'un jour, la mer arriva pour la marche de Sri Aurobindo et Champakal n'était pas là. Il n'y avait personne d'autre que moi-même. Que faire ? À ma vive surprise, mère dit « Pouvez-vous soutenir Sri Aurobindo ?» Avec beaucoup de précaution et presque en tremblant, je m'assis à sa gauche sur un lit et je plaçai mon bras droit autour de sa taille. Il posa sa main gauche sur mon épaule et se mit debout. Nous n'avions pas fait deux tours que Champakal arriva en courant. Je devinai ce qu'il avait dû ressentir devant ce spectacle mémorable. Alors, je me retirai pour qu'il reprît sa place. Et le maître dut éprouver un immense soulagement. Mais ce contact doux et velouté d'une minute reste inoubliable. Si telle fut mon expérience, je ne sais pas ce que Purani et Champakal, qui avaient soutenu le Seigneur pendant des mois, ont dû ressentir. Quelqu'un apprécia correctement la valeur de ce contact en disant que les épaules de Champakal devaient être recouvertes d'or. Chacun de nous eut sa chance. C'était le mot que nous utilisions. Tout ce à quoi nous avions intérieurement aspiré eut sa réponse. Et celui qui l'a reçu pouvait seul témoigner de la véracité du phénomène. Ye yata mam pradatyante. Comme ils m'approchent, je les accueille. Bhagavad Gita. C'est le jeu divin entre le disciple et le Seigneur. Comme il m'approche, ainsi je les accueille. Je citerai un autre exemple au risque d'être la risée des rationalistes et de surcroît d'être traité d'apostat, car autrefois n'étais-je pas moi-même un matérialiste. Sri Aurobindo avait l'habitude de prendre une pastille à la menthe tandis qu'il dictait Savitri. Et le rôle de Champakal était de l'offrir quand il la lui demandait. Il attendait sans relâche, même s'il n'était pas appelé à l'heure habituelle. Je pensais, pourquoi n'aurais-je pas ma chance au moins une fois? Mais mon ami entendait l'appel, même s'il était murmuré et accourait d'où qu'il puisse se trouver. Là encore, Sri Aurobindo répondit volontairement ou non, répondit un jour à mon désir silencieux, en demandant la pastille bien plus tôt qu'à l'accoutumée, un moment où Champakal n'était pas là. Celui-ci arriva et attendit d'être appelé. Je pris un air innocent, quoique de temps à autre un sourire malicieux faillit me trahir. Finalement, très dépité, Champakal me demanda « Qu'est-ce qui se passe ? Il ne demande pas la pastille. » Je ne pus m'empêcher d'éclater de rire. Il comprit, mais demanda à quel moment exact il l'avait demandé et l'avait donné. Le disciple sérieux et docile obéit à l'ordre du maître. À propos de Sayana, Sri Aurobindo dit dans un entretien, « Sayana, en dépit de ses nombreuses erreurs, est très utile, quoi que ce soit aller vers l'ignorance pour trouver la connaissance. » J'ajoutais, pour Annie, avec sa tête chauve et brillante, quelques mèches de cheveux blancs, des lunettes posées au bout de son nez pointu et d'épais volumes à ses côtés ressemblent beaucoup à Sayana. Sri Aurobindo répondit « Oh, Sayana est revenue pour rattraper ses bêtises. » À d'autres moments, il est comme un reporter débordant de nouvelles ramassées dans tous les milieux, surtout en ville. Il arrive, Sri Aurobindo le regarde et lui demande « Quelles nouvelles ?» Alors, les entretiens commencent. Parfois, Pourani est en retard et le maître demande « Où est Pourani ?» Souvent, Pourani oubliait sa gravité et devenait un enfant pour comploter avec nous tous. Lorsqu'il n'y avait pas de sujet de conversation, faire parler Sri Aurobindo, qui peut-être ne faisait qu'attendre cette occasion. Cette balle était mise en mouvement par Pourani, qui raconte par exemple Nirod dit que son mental devient morose et stupide. En d'autres occasions, il entamait de sérieuses discussions sur la peinture, la poésie moderne, la philosophie, la politique, l'histoire et la science, et je ne sais quoi d'autre. Il n'y avait guère de sujets sur lesquels il ne pouvait pas dire quelque chose. Un homme aux talents variés et une personnalité très intéressante. Un soir, je me souviens, Gourou et Shishya eurent un long entretien de plus d'une heure sur une vieille affaire judiciaire qui dut avoir lieu lors d'un séjour de Sri Aurobindo à Baroda et qui avait certainement fait du bruit pour que Pourani s'en souvienne et en discute avec Sri Aurobindo. Il était couché sur le côté et Pourani était assis par terre appuyé sur le canapé en face. Cela ressemblait à un entretien très familier, tel celui entre le père et un fils. Quiconque n'ait vu le maître qu'au darshan ne pouvait jamais se représenter ce que Sri Aurobindo, ayant ôté son manteau de majesté et de haute impersonnalité. Je restai un moment pour écouter la discussion, mais la trouvai si terne que je commençai à me demander comment il pouvait la faire durer ad infinitum. C'est l'universalité d'esprit de Purani qui a tant enrichi nos entretiens avec le maître. Si par malheur vous marchiez sur ses doigts de pied, c'était le vieux lion qui grognait et rugissait. Mais chaque fois que l'intérêt de Sri Aurobindo était en jeu, il se donnait sans compter. Alors je vais terminer. Outre Pavitra et Duman, qui venaient nettoyer le tapis le premier au début seulement, je mentionnais un autre sadak, Udar, qui vient tous les jours à partir de 1947 nettoyer les nouveaux meubles de la chambre de Sri Aurobindo. Il nous a aussi beaucoup aidés à trouver les médicaments pour Sri Aurobindo lors des derniers jours de sa maladie. Il était là au moment de son départ. Voici le compte-rendu qu'il a fait de son travail. À ce moment-là, en 1939, après l'accident de Sri Aurobindo, il a paru que les meubles dont il se servait devaient être remplacés par quelque chose de mieux. La plupart étaient en bois, provenant des caisses. Ainsi la mère m'accorda-t-elle le grand privilège de dessiner et de fabriquer de sa chambre qui fait de bois de rose, à l'exception du lit qui fut en teck, c'était un mobilier qui est là aujourd'hui. Puis, lorsque le mobilier bien poli avec la cire fut installé, la mère m'accorda un grand privilège, celui de nettoyer et de faire briller ce nouveau mobilier. Pour cela, on me donna une heure par jour. Voilà comment j'entrai en contact avec Sri Aurobindo en dehors des darshans qui eurent auparavant. Ce fut des jours heureux pour moi. Je choisissais chaque jour une heure différente. Parfois au moment, la mère et d'autres étaient avec lui. Parfois au moment où il dictait Savitri à Nirod. Ce fut réellement pour moi une très grande expérience et j'en conserve très précieusement un souvenir. Sri Aurobindo ne parlait pas beaucoup ni souvent, mais je l'ai entendu parler sur plusieurs sujets. Il ne me parlait pas directement, sauf exception, et le souvenir m'en était très cher. J'avais cependant la grande chance de pouvoir lui faire mes pranams en privé lors des jours de darshan, de poser ma tête sur ses genoux et de regarder dans ses yeux de très près. Mais autrement, si ce n'est que j'étais tout près de lui chaque jour, pendant une heure, je n'eus pas de rapport étroit avec lui. Un jour, cependant, quelques jours avant son départ, je le trouvais en train de me regarder de très près et intensément, avec un tel amour et une telle compassion que cela dépasse toute description. J'étais seule avec lui à ce moment-là. Je ne savais pas pourquoi il me regardait ainsi, mais j'étais si transportée de joie par l'amour qu'il déversait en moi, que je ne me préoccupais pas de savoir pourquoi. Ce fut seulement plus tard, en comparant mes notes avec celles de ceux qui l'ont servi physiquement, que je découvris qu'il me dictait un au revoir physique. Il avait fait de même avec les autres, à chacun d'une manière différente, et semble-t-il, chacun fut déconcerté à ce moment-là. Mais quand il nous quitta physiquement, peu après, nous en devinâmes la raison. Voilà, je termine cette lecture des 12 années avec Sri Aurobindo, les assistants de Nirodh Baran. Je remercie infiniment Sri Aurobindo et Douce Mère pour cette lecture. Ganga Lakshmi.